7h25 sur France Culture.
La revue de presse internationale.
Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Guillaume.
Parfois les sondages se trompent de peu, ils avaient annoncé un 50-50 pour le deuxième tour et ce n'est pas tombé loin.
Oui, en Équateur, il y avait des élections ce dimanche pour désigner le successeur de Rafael Correa. Les résultats donnent un léger avantage au socialiste Lénine Moreno, candidat du parti au pouvoir avec 51% sur son adversaire, l'ex-banquier Guillermo Lasso, qui lui affichait 49% des suffrages. Un résultat d'autant plus serré que le candidat malheureux a d'ores et déjà dénoncé la fraude et s'est dit prêt à contester le résultat. Il faut dire que le président Correa n'a pas ménagé sa peine pendant cette campagne électorale. Alors que lui-même avait été élu par deux fois dès le premier tour, sa succession s'annonçant la plus serrée de la décade, eh bien il aurait, comme le rapporte le Wall Street Journal, mis les bouchées doubles pour convaincre les électeurs de choisir le socialisme et ne pas céder au virage à droite, virage déjà observé dans les pays voisins. Il a été très actif dans la campagne, remarque un professeur de sciences politiques de l'université de Quito, relatant les récentes inaugurations d'hôpitaux, d'écoles et d'ouvrages en tout genre. Les gens croient qu'en élisant le candidat de Correa, ils continueront à bénéficier de nouvelles aides et d'infrastructures, ce que nous pourrions qualifier de politique clientéliste, assure-t-il. Trois jours avant le vote, le gouvernement a ouvert quatre nouveaux centres de santé dans quatre provinces, pendant que le président Correa coupé le ruban lors de la cérémonie d'inauguration du nouvel hôpital de la grande ville côtière de Guayaquil, la ville natale de son opposant, un événement couvert en direct par la chaîne de la télévision nationale. Une semaine avant, il avait inauguré 34 écoles et attribué 40 logements aux officiers de police et leurs familles dans le cadre du plan Révolution citoyenne. Cette semaine a vraiment été une semaine de rêve, déclarait Correa dans les interviews à la télévision, posant devant les nouvelles infrastructures. La révolution ne s'arrêtera pas, déclarait-il à la population. De son côté, Guillermo Lasso, le candidat conservateur qui séduisait les classes moyennes, affectées par la crise due à la chute des cours du pétrole, n'aurait pas eu les mêmes faveurs médiatiques, toujours selon le Wall Street Journal, rapportant les attaques du public lors d'un match de foot, lançant des pierres, l'accusant de s'être enrichi pendant la crise financière de 99, alors qu'il était ministre de l'économie. Guillermo Lasso aura eu beau inviter la crise du Venezuela dans la campagne et le spectre d'un coup d'État, ses arguments auraient échoué à convaincre l'électorat, mais de peu.
Le Venezuela où la démocratie menace de s'effondrer, titre le New York Times ce matin, Annabelle.
Quand Hugo Chavez a pris le pouvoir au Venezuela il y a 20 ans, il était supposé sauver la démocratie et aujourd'hui il est en train de la faire exploser, assure le correspondant du New York Times. Relatant les derniers événements survenus ce week-end, la Cour suprême vénézuélienne a renoncé à attribuer les pouvoirs du Parlement et à conférer des prérogatives élargies au président Nicolas Maduro, qui a paru reculer face aux pressions internationales. Ce recul est intervenu auprès d'un conseil de défense réunissant des représentants des principales institutions du pays, convoqué par Maduro, qui s'est fait conciliant face à ce qu'il a lui-même qualifié d'impasse dans la crise politique que traverse le Venezuela. Le président a offert de renouer le dialogue avec la coalition d'opposition du centre-droit, la table de l'unité démocratique, suspendue depuis décembre. Le camp de Maduro est engagé dans un bras de fer avec l'opposition anti-chaviste depuis qu'elle a largement remporté les législatives de décembre 2015. Le Parlement, dominé depuis donc décembre par l'opposition de centre-droit au président socialiste, a déclaré que ce recul était insuffisant, estimant que se poursuivait un coup d'État voulu par Maduro pour renforcer son pouvoir. Et pendant ce temps-là, les prisons se remplissent d'opposants politiques, rapporte le New York Times. Pour Braulio Jatar, ce devait être le scoop de l'année. Ce journaliste d'un site d'information vénézuélien avait filmé le président poursuivi par une foule en colère, criant de faim. Dans la nuit, les forces de l'ordre sont venues l'arrêter et ont confisqué tout son matériel, raconte son épouse. Et depuis, je suis toujours sans nouvelles. Il aurait été emprisonné. Au moins 114 opposants seraient aujourd'hui derrière les barreaux. Selon les organisations des droits de l'homme, près de 7000 d'autres y auraient été placés depuis 2013 par Maduro, rapporte le journal.